إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous entamons inshallah le deuxième cours concernant l'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, imam dar al-hijra, l'imam de la demeure de l'exil, de l'émigration, l'imam de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le cours précédent, le premier cours, nous avons vu un aperçu de sa biographie, de sa vie. Et maintenant, nous allons voir les positions dans le domaine de la croyance et du dogme de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et ceci est pris d'un ouvrage s'intitulant, comme je vous l'ai dit précédemment, Aqidatul Imam Malik rahimahullah ta'ala, du docteur Saoud ibn Abdel Aziz al-Rajan al-Ustadh bil Jami'at al-Islamiyyah bil Madinah al-Nabawiyyah. Mais avant de commencer, je voudrais faire une petite introduction concernant l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Donc beaucoup de gens parmi vous le connaissent pour le madhhab, pour l'école, le rite malikite. Mais la plupart des gens, surtout parmi la masse, ignorent qui est vraiment l'imam Malik rahimahullah. Ignorent la croyance et le dogme et le chemin clair sur lequel était l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Donc on se retrouve face à des gens qui s'apparentent à l'imam Malik, soit à tort ou à raison. Il est étonnant de voir que des gens se battent pour prouver qu'ils suivent le rite de l'imam Malik rahimahullah. Et lorsqu'on dit le rite qui est al-madhhab al-maliki, cela d'un point de vue général concerne les règles de la jurisprudence qu'on appelle d'un point de vue technique al-fiqh, et qui concerne deux domaines qu'on appelle al-ibadat wal-mu'amalat, c'est-à-dire les actes rituels, cultuels, et les actes concernant le relationnel entre les gens. Cultuels, cela concerne la prière, le jeûne du mois de Ramadan, ça concerne la zakat, ça concerne le pèlerinage, les quatre derniers piliers de l'islam. Al-mu'amalat, c'est tout ce qui est relationnel, tout ce qui concerne les transactions, ça concerne le mariage, l'héritage, ça concerne le commerce sous toutes ses formes et les règles qui s'en suivent. Ça concerne aussi les lois et les sentences concernant les délits et ainsi de suite. Donc voilà en gros ce qu'on appelle al-fiqh, et par là les gens, certaines personnes comme je disais, se reconnaissent comme étant suivant le rite malikite. Mais ils ne suivent pas l'imam Malik dans le domaine dogmatique, dans le domaine de la croyance. Et souvent dans nos pays, ils disent que dans la croyance, ils sont Ash'ari. Donc ils disent, dans le dogme, on est Ash'ari. Dans l'ibada et le mu'amala, on est malikite. L'imam al-Ash'ari, qui s'appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, un grand imam de l'islam, a eu plusieurs phases dans sa vie. Et parmi ces phases, il y a ce qu'on a appelé plus tard l'aqida al-Ash'ariya, alors que lui, il en est innocent, puisque à la fin, il s'est repenti des erreurs qu'il avait dans le domaine dogmatique et il est revenu à la aqida d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, à la aqida de Salaf al-Salih, rahimahumullahu ta'ala, comme il l'a très bien démontré dans ses derniers ouvrages, comme l'ouvrage célèbre qu'il a laissé, qui s'appelle l'ouvrage Subhanallah, j'ai oublié le titre. Khair, inshallah, peut-être que ça me viendra plus tard. Donc, il a laissé un grand ouvrage où il explique le dogme sur lequel il est et il est resté à la fin de sa vie. Donc, la plupart des gens qui se disent Ash'ari, ils ne suivent pas Abu al-Hassan al-Ash'ari puisque ce sont des questions sur lesquelles lui-même, rahimahullah, il est revenu et il est revenu sur le droit chemin sur ces questions-là. En plus de cela, pourquoi les gens ne vont-ils pas aussi chercher la croyance sur laquelle était l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala? Et avant tout cela, la croyance sur laquelle était le prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum, dont il est un devoir de suivre. Souvent, on entend aujourd'hui des gens dire, nous, on est malikites. Mais est-ce que l'imam Malik, rahimahullah, comme ces gens sont, c'est ce qu'il a demandé? Est-ce que les gens, leur façon d'appliquer l'islam émane des décrets et opinions de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala? Après réflexion, la réponse est négative. Non. L'imam Malik, rahimahullah, en est complètement innocent. Parfois, on entend des gens dire, on a vu nos parents sur un chemin, nos ancêtres sur un chemin, et nous suivons ce chemin. Ce genre de réponse n'est pas une réponse scientifique. Ça, c'est la réponse qu'avaient tous les peuples pour rejeter l'appel des prophètes et des messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais le bon musulman est quelqu'un qui cherche la vérité et qui suit la vérité, qu'elle soit avec lui ou pas. Et personne en lui-même n'est la vérité. La vérité, c'est ce qui se trouve dans le livre d'Allah, le Coran, et dans la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wassalam, et ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum, ainsi que les tabi'in, rahimahumullah ta'ala. Parfois, on entend des gens dire, mais ces idées que vous ramenez, ils viennent d'Arabie Saoudite, ils viennent de tel ou tel pays. On répondra à ces gens, premièrement, la vérité, elle se doit d'être acceptée de là où elle vient. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas au Maghreb. Il n'a jamais mis ses pieds au Maghreb. Il n'était pas en Andalousie. Il n'était pas en Afrique. Il était à la Mecque et à Médine, qui se trouve en Arabie. Donc ces gens-là, ils suivent un prophète qui est issu de l'Arabie. Donc ils le sachent. Lorsqu'ils disent, on est malikite, l'imam Malik, rahimahullah, n'a jamais été au Maghreb, n'a jamais été en Andalousie, n'a jamais été en Afrique. Il est né à Médine, il a vécu à Médine et il est mort à Médine, rahimahullah ta'ala. Ces gens disent que dans l'aqida, ils sont Ash'ari. L'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est un Irakien, ce n'est pas un Maghrébin. Il était de l'Irak. Donc, ils prétendent suivre des choses venant de personnes qui ne sont pas de leur pays. Puis, on entend des phrases, oui, mais ça provient de là, ou ça provient de là. Donc, on voit très bien qu'en fin de compte, ça n'a pas lieu d'être de dire ce genre de phrases. Et qu'ils se contredisent eux-mêmes, puisque eux-mêmes suivent, et ou prétendent suivre, des gens qui ne sont pas de leur propre pays. La vérité n'a pas de frontières. Là où elle est la vérité, on se doit de la prendre et de la suivre. Les ulama de la sunna nous expliquent qu'il n'y a pas de mal pour un musulman de la masse et de la base de suivre une école parmi les écoles de la sunna. Tant qu'il n'y a pas de fanatisme, tant qu'il n'y a pas de suivi et d'attachement aveugle. Dès qu'il voit la vérité quelque part, il prend cette vérité. Mais pour son cheminement, qu'il suive une école parmi ces écoles de la sunna, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'interdiction. Mais de l'autre côté, il n'y a rien qui l'oblige, ni qui ne le recommande. Mais il est demandé, comme les ulama disent, « Al-ami la madhhab lah, madhhabuhu madhhab mufti ». La personne de la masse, qui est la majorité des gens, n'a pas une école bien précise. Il ne suit que les réponses que lui dit son moufti, son shir, son imam, le savant qui est chez lui, qui répond à sa question. Voilà ce qui lui est demandé à lui. Contrairement à celui qui a du savoir et de la science, lui se doit de puiser et de chercher dans les sources la vérité. Donc, c'était une petite introduction que je voulais vous rappeler avant d'entamer les questions dogmatiques sur lesquelles était l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Awalan, premièrement, اعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداع والتقليد. Donc, son attachement, son cramponnement au livre d'Allah et à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, et sa mise en garde contre l'innovation et le suivi aveugle. قال خالد ابن نزار الأيلي رحمه الله تعالى ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله عز وجل من مالك بن أنس رحمه الله. خالد ابن نزار الأيلي رحمه الله nous dit: je n'ai pas vu quelqu'un revenir s'argumenter plus avec le livre d'Allah عز وجل كمالك ابن أنس. وعن ابن وهب رحمه الله قال سمعت مالك ابن أنس يقول إلزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحديث مروي في الموطأ وهو حسن بشواهده كما قال الألباني رحمه الله. Et ابن وهب رحمه الله nous rapporte: j'ai entendu Malik ibn Anas رحمه الله dire: attache-toi à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dite lors du pèlerinage d'adieu. Deux choses que j'ai laissées entre vous. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous y attachez, tant que vous y cramponnez le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa anhu aydan, ya'ni an ibn Wahb rahimahullah, yaqulu al-imam Malik, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، إذا سئل عن شيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. Toujours d'après Ibn Wahb, rahimahullah, qui dit, l'imam Malik a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était l'imam des musulmans. Et il était l'élite des mondes. Et lorsqu'il était questionné sur une chose, il ne répondait qu'une fois qu'il a reçu la révélation du ciel. Une preuve comme quoi le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur des hommes, l'imam de tous les prophètes et de tous les messagers, l'élu d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais il n'avait pas d'aspect divin. Tout ce qui était propre à Allah, subhanahu wa ta'ala, est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, de ce fait, Allah, tabaraka wa ta'ala, a gardé pour lui tout seul la connaissance de l'ghayb, de l'invisible, du futur, passé, tout ce qui est méconnu, même dans le présent, tout cela appartient à Allah, Rabbul Alamin, subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'en a pas connaissance. Alors que dire de toute autre personne ou créature qui viendrait après le prophète, alayhi salatu wa sallam. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. 10 personnes, ni dans les cieux, ni dans la terre, ne connaissent le ghaib à part Allah. Et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَرْتَضَى مِنْ رَسُولِ. Le connaisseur de l'ghaib, il n'en donne connaissance à personne, sauf à celui qu'il a choisi ou qu'il a agréé parmi les messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La ya'lamu al-ghayb illa Allah » Ne connaît le ghayb que Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Khamsun la ya'lamuhunna illa Allah » ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. 5 choses non à connaissance que Allah font partie de l'ghaib. Puis il a récité le verset coranique dans lequel Allah nous dit dans le sens du verset, Allah possède, il a la connaissance de l'heure, quand est-ce qu'elle arrivera. Et il fait descendre la pluie, personne ne sait le moment même où la pluie doit descendre, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il connaît ce qu'il y a dans les matrices. Et nulle âme ne sait ce qu'elle acquérera le lendemain, et nulle âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Et Allah nous dit aussi dans le Coran, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Et il possède les clés de l'ghaib. Ne connaît cela que lui seul, subhanahu wa ta'ala. Dans combien de versets on retrouve les questions qui sont posées au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et Allah révèle la réponse. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha wa yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'anil jibal wa yas'alunaka 'anil yatama yas'alunaka 'anil anfal يسألونك عن المحيض Combien de versets coraniques il te questionne sur les menstrues, il te questionne sur l'heure, quand est-ce qu'elle arrivera, il te questionne sur l'âme. Combien de versets coraniques il te questionne sur le butin de guerre. Combien de questions qui ont été posées au prophète sallam et Allah révèle à son prophète alayhi salatu wassalam. Moussa alayhi salam, celui qui a parlé à Allah tabaraka wa ta'ala, kalimullah alayhi salatu wassalam, un homme vint le voir et il lui dit: qui est le plus savant? Il a dit: c'est moi. Et pour comme éducation, Allah lui dit: va vers tel endroit, il y a un homme qui a un savoir que tu n'as pas. Et vous la connaissez l'histoire, qui n'en soit la caverne al-Kahf, l'histoire de Moussa avec al-Khadr. Et il va à la rencontre de al-Khadr. Et al-Khadr lui enseigne des choses que lui. Et au début, il lui dit quoi al-Khadr? Dans le hadith, on a le récit, il lui dit: j'ai une science qu'Allah m'a donnée, toi tu ne l'as pas. Et toi, tu as une science qu'Allah t'a donnée que moi je n'ai pas. Donc, je me suis attardé sur ça. Pourquoi? Combien de gens pensent qu'il y a des devins, pensent qu'il y a des créatures qui connaissent le futur, qui connaissent les secrets cachés? Combien de gens vont voir les marabouts, vont voir les astrologues, lisent l'astrologie, l'écoutent, les contactent dans la radio ou dans des chaînes télévisées? Wal'iyadhu billah. Combien et combien et combien dans notre communauté? Et ils assimilent ça à la religion. Lui c'est le hajj, elle c'est le hajja. Ils vous récitent quelques versets coraniques pour vous endormir et vous tombez dans le piège. Et si vous disent des choses qui s'avèrent vraies, alors là ça y est, vous êtes foutus. Voilà, il y a combien de personnes sont tombées dans ça? Combien, même par curiosité, il regarde selon son signe astrologique, wal'iyadhu billah. Une curiosité qui est interdite. Celui qui va voir ces gens, qui parle à ces gens, seulement, il les questionne, il n'y croit pas, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Celui qui va les voir et il croit en ce qu'ils disent aura mécru en ce qui a été révélé sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces choses et la foi sont incompatibles. Wal'iyadhu billah. Combien même au bled on en a, certains les appellent le frais. Qu'est-ce qu'il a de frais celui-là? Subhanallah. Très loin d'être frais. Le faqih, c'est celui qui a la connaissance de la religion, la connaissance du Coran, la connaissance du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui connaît le chemin qui mène à Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Tayyib. وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: سئل مالك بن أنس عن السنة قال: ما لسم له غير السنة وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله nous rapporte que l'imam Malik ibn Anas fut questionné sur la sunna. Il dit: c'est ce qui ne possède aucun nom si ce n'est la sunna. Puis il a récité la parole divine dans le sens du verset: et voilà mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les autres chemins qui vous égareront, qui vous éloigneront de son chemin. Le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est qu'un seul. C'est le chemin sur lequel était le prophète alayhi salatu wassalam. Le même chemin sur lequel étaient les compagnons radiallahu ta'ala anhum et ceux qui les ont suivis convenablement. Donc la vérité n'est qu'une et le faux est multiple. Il y a plusieurs chemins. Un seul chemin qui mène vers le paradis et multiples chemins qui mènent vers l'enfer. Et c'est pour cela qu'il faut être derrière le prophète alayhi salatu wassalam.
وَلَمَّا سَأَلَهُ رَجُلٌ مَنْ أَهْلُ السُّنَّةِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ لَقَبٌ يُعْرَفُونَ بِهِ لَا جَهْمِي وَلَا رَافِضِي وَلَا قَدَرِي.
Et lorsqu'un homme questionna l'imam Malik rahimahullah, qui sont les adeptes de la sunna au père de Abdullah, il répondit, ce sont ceux qui n'ont pas ces surnoms qui existaient à son époque, rahimahullah. Il n'est pas jahmi, il n'est pas chiite, rafida, ce sont les chiites, et il n'est pas qadari, ceux qui se sont égarés dans le domaine de la destinée.
وقال ابن وهب رحمه الله كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
Et ابن وهب رحمه الله nous dit, un jour nous étions chez l'imam Malik رحمه الله. Et la sunna fut citée. Et l'imam Malik a dit, la sunna, c'est l'arche de Noé. Celui qui a grimpé dedans, qui est monté dedans, il sera sauvé. Et celui qui s'est attardé, qui n'est pas monté dedans, il sera noyé. Subhanallah, quel bel exemple qu'a donné l'imam Malik, rahimahullah. L'arche de Noé, tous ceux qui étaient à l'intérieur ont été sauvés du déluge. Tous ceux qui étaient à l'extérieur ont été noyés. Ils ont péri. Il a dit, l'arche, c'est la sunna. Celui qui entre dedans, il est sauvé. Celui qui n'entre pas dedans, il sera noyé et perdu.